Bonjour et bienvenue dans Ils sont Amiens, le podcast des gens qui font vibrer Amiens. Je m'appelle Alex, je suis amiénois et dans la vie, j'aime rencontrer des gens et raconter des histoires de vie originales et captivantes. C'est pourquoi je me suis équipé d'un micro pour aller à la rencontre d'amiénoises et d'amiénois qui font vibrer notre ville. Dans un lieu qui a été choisi par mon invité, on va retracer son parcours de vie et parler de ses projets. Qu'il soit artiste, entrepreneur, bénévole, personnage public ou anonyme, tous ont une vie captivante et inspirante liée à notre ville d'Amiens. Bienvenue dans cet épisode particulièrement émouvant de notre podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Clément Roussel, le président fondateur de l'association Les Images de Blanche. Cette association est née de l'amour inconditionnel qu'il porte à sa fille Blanche, atteinte d'une mutation génétique rare qui entraîne un retard moteur global. Blanche est une source d'inspiration quotidienne pour Clément et sa famille. Depuis sa naissance, ils ont dû ajuster leur quotidien pour l'accompagner au mieux dans sa vie. Clément, avec le soutien indéfectible de sa famille, a embrassé son rôle de proche aidant avec une détermination admirable. Sa passion pour la photographie a aussi joué un rôle crucial dans cette aventure, le poussant à créer cette association, Les Images de Blanche, qui a donc pour objectif de récolter des fonds via le Festival de la Photo Amiénois, un événement qui se tiendra les 15 et 16 juin prochains à l'espace de Wailly à Amiens. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire captivante d'un père qui se bat chaque jour pour offrir à sa fille un futur plein d'espoir. Allez, prenez place avec nous au Kimbo, un lieu chaleureux qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse. Et préparez-vous à être touché par cette histoire de résilience, d'amour et de solidarité. C'est un épisode qui ne manquera pas de vous inspirer et de vous émouvoir.
Bah c'est très bien.
Bon, Clément. Du coup, on se voit aujourd'hui. Alors, du coup, on a le Kimbo qui nous accueille. C'est génial. Hein. On explique aussi aux auditeurs, on a eu du mal à trouver un lieu et on a la chance de tomber sur le Kimbo qui nous accueille aujourd'hui. Clément, est-ce que tu peux m'expliquer et puis nous expliquer du coup à tous les auditeurs un peu pourquoi on se voit aujourd'hui ?
Alors, en fait, on se voit aujourd'hui pour parler un petit peu, moi, de ce que je dirige aujourd'hui, une association qui est avec un but caritatif, pour présenter un petit peu les événements qu'on peut faire, présenter, et surtout les actions qu'on mène derrière par rapport à ça.
Ouais. Alors, du coup, de l'association ?
Ouais.
Vas-y.
Donc, si c'est tu veux dire l'association. Donc, du coup, c'est l'association des Images de Blanche que je dirige et qui existe maintenant depuis, on va dire, un petit peu plus... on va dire 2 ans pratiquement, voilà, et donc du coup aujourd'hui on est, alors déjà de 1 aujourd'hui fiscalement et réglementairement parlant on est reconnu comme étant une association non d'intérêt général, parce que c'est vrai que des fois il y a un peu le mea culpa qui se fait en fait, parce que c'est les images de Blanche, et donc il y a Blanche, ouais, qui est la mascotte de l'association, qui est donc ma fille qui est porteuse d'un handicap, on pourra,
ouais,
en parler.
Ouais. Et, ouais, tu peux nous raconter un peu la genèse de ça. Hein, ouais.
Tout à fait, et donc du coup, en fait l'idée de l'association c'est de faire tout un tas d'actions derrière, vraiment dans un but caritatif, mais vraiment pour en faire profiter des enfants, mais aussi des familles. C'est pas une association qui est vouée en tout cas à faire quelque chose pour Blanche, quoi. C'est vraiment, ouais, de manière beaucoup plus générale, on,
ouais,
va dire.
Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Alors du coup tu me disais effectivement tu avais un peu la genèse, parce qu'on va repartir du début.
C'est ça.
Pour expliquer un petit peu tout le concept de cette association pour arriver à la fin et puis au futur, parce que du coup il y a quand même pas mal de projets.
Il y a beaucoup de projets, ouais. On a beaucoup de projets sur le feu, on a plein la tête honnêtement. Mais alors pour refaire vraiment l'historique, l'histoire de cette association, c'est que pour faire simple, je suis donc papa de plusieurs enfants, dont ma fille aînée Blanche, qui a maintenant 10 ans et qui est porteuse d'un handicap. On s'est aperçu de son handicap quand elle avait un peu plus
jeune. Juste la parenthèse, t'as combien d'enfants du coup ?
Alors j'ai 3 enfants.
Donc ouais. Du coup ils ont quel âge ?
Alors il y a donc Blanche qui a 10 ans, derrière on a Auguste qui a 5 ans et on a la petite dernière Céleste qui a 1 an et demi.
D'accord, ok.
Voilà. Donc voilà, donc là ils sont 3 et donc Blanche en effet, on s'est aperçu de son handicap lorsqu'elle avait un peu plus, on va dire un petit peu plus d'1 an.
Ouais.
Et donc à partir de là, bon bah ça a été un petit peu le parcours du combattant pour essayer de parfaire un petit peu aussi à notre rôle d'aidant. Aujourd'hui c'est quelque chose qui devient un peu à la mode ce terme, mais qui est fondamental quelque part. Et donc en fait le temps avance et on a surtout beaucoup de préoccupations, d'interrogations pour le futur la concernant, parce que concrètement aujourd'hui Blanche a 10 ans, elle n'est pas propre, elle n'est pas verbale, Elle fait très très peu d'acquisitions. Lorsqu'elle fait une acquisition, c'est quelque chose qui se fait sur un temps qui est très long. Ça, en fait, pour essayer d'imaginer un petit peu, c'est un enfant de 10 ans, mais avec le développement cérébral d'un enfant d'à peine un an et demi.
Ouais. Quel est le nom du handicap
Alors en fait, c'est un handicap qui s'appelle le Grindosa. Alors c'est très peu connu, parce que pour l'instant, on a référence à peu près, on va dire à peu près 150 cas dans le monde, donc c'est très rare.
Ouais, c'est vraiment très rare.
Et donc il en existe trois. En fait, c'est une mutation génétique, concrètement. Et donc il y a le gène, c'est un gène en fait qui est défaillant voilà, au moment de sa mutation. Et donc c'est le gène Green 2, et il y a le Green 2A, le Green 2B, le Green 2C, le A est le pire, parce qu'en fait ça apporte beaucoup de retard en fait au niveau du développement cérébral et moteur. Et derrière ça engendre aussi une épilepsie, qu'on appelle une épilepsie rare. Donc c'est surtout ça qui en fait c'est ça qui a fait qu'on a revu toute notre vie et familiale et surtout professionnelle en fait par rapport à ça, parce que pour réussir à gérer son épilepsie, c'est surtout ça qui est fondamental aujourd'hui pour espérer en fait qu'elle puisse en tout cas avoir une espérance de vie la plus grande possible. C'est qu'il faut qu'on puisse gérer ses crises d'épilepsie. Aujourd'hui c'est quelque chose qu'on arrive à faire, mais ça demande en tout cas avoir une vie qui est très millimétrée, très militaire, toujours très ritualisé, surtout en fait, c'est tout est toujours ritualisé, etc.
T'as pas de place à l'imprévu pour qu'elle puisse avoir.
Ça donne très peu de champ en effet à l'imprévu, ouais, parce que c'est ça peut être source de beaucoup de problématiques derrière qui peuvent lui engendrer malheureusement de faire une crise d'épilepsie. Et bon, voilà, une des dernières crises d'épilepsie qu'elle a pu faire, elle a été inconsciente pendant près de 3 heures. C'est directement service de réanimation pédiatrique en urgence, de peur que son système respiratoire puisse lâcher. Enfin bon, ça peut aller très loin, quoi. Donc voilà, donc c'est une épilepsie qu'il faut surtout gérer. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on a la prétention, en tout cas, je pense, de savoir gérer à peu près aujourd'hui. Parce que là, ça va faire pratiquement 2 ans qu'elle n'a pas fait de crise. Donc, c'est plutôt pas mal, parce qu'avant, c'était beaucoup plus récurrent, on va dire. Ouais. Donc voilà, on est plutôt...
Vous avez réussi à trouver en fait, un rythme en fait, qui lui
convient. Voilà, c'est ça, ouais. On a réussi vraiment à se figer, et professionnellement aussi, de manière à faire en sorte qu'on ait vraiment la vie la plus réglée qui soit possible en fait, pour elle. Et aujourd'hui, en tout cas, ça porte ses fruits, puisque voilà,
là-dessus, ça fonctionne. D'où le caractère aussi exceptionnel de l'échange qu'on a aujourd'hui, parce que du coup, tu as dû, j'imagine, gérer ton agenda.
Oui, c'est sûr, oui. Bon, puis après, c'est sûr qu'on a... Après, j'ai d'autres activités aussi professionnelles au-delà de l'association. Donc, bon, bah, entre la vie familiale, la vie des dents vis-à-vis de Blanche, la vie professionnelle, la vie associative, bon, oui, c'est... les journées sont très vite remplies, quoi. Donc, c'est vrai que, bon, déjà, de manière générale, on se doit d'avoir une planification hors pair dans tout ce qu'on fait, mais au-delà de ça, pour Blanche, on doit en plus avoir une norme et vraiment un rituel sur nos journées assez normé, quoi. Donc, donc tout se prévoit, tout s'anticipe, quoi.
Et est-ce que, alors je rentre peut-être un peu trop dans le détail, mais si ça ne te va pas, tu n'es pas obligé de me répondre, et puis on peut couper, il n'y a pas de problème. Hein.
Pas de souci.
Mais est-ce que tu peux nous expliquer peut-être une journée type que tu vis?
Alors, une journée type, si on prend une journée type
quel
aujourd'hui...
Quel type de rituel tu mets en place, hein?
Alors, en fait, ça va déjà se passer déjà dès le matin. Elle va se réveiller, en règle générale, elle se réveille à peu près vers 6h30, etc., à peu près dans ces eaux-là. C'est le petit déjeuner, toujours la même chose, toujours à la même place, toujours à table, toujours au même endroit. Elle a un set de table, en fait, qu'on lui met, qui est dédié vraiment avec de l'iconographie dedans, vu qu'elle ne parle pas. Ça lui permet de nous montrer si en fait elle veut un yaourt, si elle veut un gâteau, si elle veut de l'eau, si elle veut du jus de pomme, si elle veut... Voilà, elle a des icônes dessus en fait pour nous dire voilà, ou si c'est bon, si c'est pas bon, si elle en veut encore, si elle en veut plus, voilà. Ça lui permet en tout cas vraiment de pouvoir nous donner le maximum d'infos possible. Et ça c'est un truc, en fait ça c'est un... De base c'est un outil de communication qui s'appelle le pod. Ouais. Et ça on le travaille, on le met en place avec une orthophoniste.
D'accord.
Avec Blanche, tous les mercredis après-midi maintenant, avant c'était le samedi. Et donc du coup voilà, on a donc ça c'est sur son set de table, mais après de manière générale, elle a un classeur vraiment complet qui est assez épais, avec énormément de pages dedans, où une page renvoie à une autre page pour petit peu, entre guillemets, faire office de faire une phrase, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'elle va nous montrer, bon, bah là, typiquement, on était parti un petit peu quelques jours en vacances au bord de mer. Du coup, elle peut nous montrer, bah là, moi, je veux sortir, je veux aller à la plage, je veux des choses comme ça. Chose qu'avant, on ne pouvait absolument pas faire.
D'accord.
Donc, du coup, voilà, petit déjeuner. Donc, elle nous montre exactement ce qu'elle veut, etc. Après, c'est le rituel de passer, on va se mettre sur les toilettes parce que on a pour projet cette année, ça me paraît ambitieux, mais bon, en tout cas, dans les temps à venir, d'essayer de la rendre propre. Ouais. Blanche n'est pas propre, donc maintenant, elle a, étant donné qu'elle a elle a son frère qui lui est propre, heureusement, à 5 ans, et sa petite sœur d'un an et demi qui, elle, est là, est vraiment, voilà, ça va systématiquement sur le pot, etc., etc., elle va pas tarder à être propre. Donc du coup, ça booste un petit peu, il y a une émulation qui se fait autour de ça, et donc du coup, voilà, on est systématiquement, on passe par la case toilette, donc Blanche retire sa couche, elle se pose sur les toilettes, ça dure, allez, montre en main peut-être 3, peut-être 4 secondes, elle se rhabille, après on monte, et après il y a son chien qui vient de nous aider parce qu'elle a un chien d'assistance.
Ah oui, d'accord.
Un chien d'assistance qui a été formé par Andy Chien, qu'on a avec nous maintenant depuis un an et demi, si ce n'est 2 ans même, je dirais. Voilà, et donc après lui il vient avec nous, et donc là après on a le rituel, donc c'est moi qui l'habille le matin, donc elle se déshabille, Pops peut l'aider aussi à se déshabiller, si elle est en contrariété ou autre.
Pops c'est le chien.
C'est le chien, ouais, tout à fait, c'est son chien, ouais, c'est son prénom. Et un prénom heureusement qui est facile à dire parce que Blanche arrive, elle fait Pop. Et du coup, ça permet quand même de l'appeler. Et puis, donc systématiquement, son chien doit être assis à côté d'elle pour s'habiller. Et en effet, des fois, il peut l'aider à tirer. Il y a des commandes en fait spécifiques pour ça et pour l'aider pour en partir son pyjama, des choses comme ça. Sans la mordre, mais vraiment avec une préhension, une dextérité assez folle, il va choper la bille et puis.
C'est incroyable ce que tu racontes parce que du coup, c'est. En gros, c'est donc un chien d'assistance, c'est comme on pourrait dire un chien de non-voyant.
Exact. C'est une formation plus poussée qu'un chien guide d'aveugle. En fait, c'est un chien qui, in fine, en fait, c'est un chien qui coûte plus cher formation terminée qu'un chien d'aveugle, à vrai dire. Ouais. Un chien d'aveugle, c'est un chien qui coûte aux alentours d'aller entre 12 14 000 euros, grand maximum. Ouais, un chien d'assistance, c'est 18 000.
D'accord.
Donc c'est très très cher et c'est formé officiellement par l'association. C'est toujours pareil, c'est toujours une association qui s'appelle Andy Chien.
D'accord.
Ils ont plusieurs centres en France et donc nous là le centre le plus proche est celui d'Alençon. Et donc lui a été formé à Alençon pendant 2 ans, spécifiquement pour Blanche. Et donc voilà, donc là maintenant c'est un grand bonheur, on l'a pour nous et ça nous aide beaucoup. Et on s'y habitue beaucoup et ça nous arrive parfois de s'absenter ou des fois dans l'effervescence de la journée on se dit oh, on part juste 2 heures, on va pas emmener le chien, on va le laisser tranquille, il y a une grosse journée avant, on a peut-être beaucoup bougé, on va le laisser tranquille à la maison 2 heures. Et en fait c'est à ce moment là où parce que alors Blanche est, elle a beaucoup de syndrome autistique.
Ouais.
Elle n'est pas autiste mais son handicap lui confère un syndrome autistique quand même.
D'accord.
Et donc comme un autiste lourd elle est capable de s'énerver pour rien, dès qu'elle est frustrée pour quelque chose, si on lui dit non, elle peut se mettre par terre, crier, se taper par terre, mordre, enfin voilà, donc il faut être vigilant dans ses gestes. Et dès qu'on n'a pas le chien avec nous, c'est systématique, c'est phase de colère. Par contre, dès que le chien est là, elle passe très vite à autre chose.
D'accord.
Et donc le chien l'aide vraiment, en tout cas, à être une espèce d'éponge vraiment à émotion, au-delà du quotidien, de l'aider pour différentes choses, mais il est surtout là pour l'aider à s'apaiser, etc. Rien que de par sa présence, la médiation animale, c'est quelque chose qui a toujours fonctionné de manière générale pour les enfants, pour les personnes handicapées, mais d'autant plus pour Blanche, parce que au-delà de ça, avec Blanche, on fait aussi de l'équithérapie depuis très longtemps. Et c'est quelque chose qui a toujours bien fonctionné. Et donc là, avec le chien, bon, c'est du bonheur.
Ouais, donc les animaux, ça apaise vraiment, quoi.
Ouais, non, la médiation, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont vraiment dans leur entourage des personnes en situation de handicap ou des personnes avec vraiment qui sont autistes ou avec de simples syndromes autistiques, où des fois la gestion des émotions peut être compliquée, ou de canaliser l'enfant dans son excitation, vraiment. La médiation animale, ça marche, ça apporte vraiment beaucoup.
Ouais.
Parce que Blanche a un enfant qui a beaucoup de mal à se concentrer, elle a très très peu de temps de concentration dans sa journée. Et à chaque fois qu'on va faire par exemple de l'équithérapie, on va faire une séance qui va durer approximativement 1 heure. Et, la séance peut paraître banale, c'est pas grand chose, mais rien que le fait de devoir brosser le cheval. Alors maintenant, on arrive à monter le cheval. Alors ça a pris des mois, pour ne pas dire des années, pour finir par réussir à monter à cheval. Mais ça se fait petit à petit, petit à petit. Et à chaque fois qu'on repart de la séance, elle est derrière, mais lessivée, quoi. Parce que ça a vraiment capter toute son attention, donc ça fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà, et donc après pour sa journée, si on parle vraiment d'une journée classique quand on est dans la semaine, après voilà, moi je l'habille, et après il y a son transporteur qui vient le chercher, parce que Blanche est dans un institut, en fait dans la journée, un institut éducatif ici sur Amiens, au niveau de Sagebien, l'IUM Saint-Exupéry, et donc en fait elle est là-bas la journée, donc en termes d'organisation, le matin on peut pas l'amener avec les autres enfants et nous qu'on commence le boulot, donc il y a un transporteur qui vient le chercher via le TAM directement à la maison. Nous on habite, on est à même pas 10 minutes de l'institut, donc du coup elle y est rapidement. Elle fait 30 minutes d'école normale par jour, et puis alors à son niveau, ouais, c'est pas 30 minutes d'école pour un enfant de 10 ans, mais ouais, c'est pour voilà.
Mais il y a 30 minutes niveau d'école et d'éducation.
Voilà, une demi-heure par jour avec une professeure des écoles de l'éducation nationale. Et puis après, dans sa journée, elle est voilà, différentes activités et tout ce qui est prise en charge, kinésithérapie, psychomotricienne, ergothérapie, chose que nous, tout ça en fait, avant, on le faisait indépendamment en fait par le biais de freelance. Ouais. Et aujourd'hui, tout est intégré dans la structure, ce qui est déjà pour nous un gros plus en termes d'organisation. Ouais. Parce qu'avant, c'était très compliqué. Il y avait tous les jours en fait des rendez-vous avec deux rendez-vous de kiné par semaine, l'ergothérapie, la psychomotricienne, l'orthophoniste aussi. Donc tous les jours, on avait des rendez-vous en dehors du boulot, il fallait y aller, etc. Donc là, tout est intégré là-bas, donc c'est beaucoup plus simple.
Même un travail à temps plein, en fait, de gérer cet emploi du temps, en fait.
Ben, en fait, c'est là où on en vient un peu à cette fameuse étiquette de parent aidant. Et c'est vrai qu'au final, ouais, c'est un job à temps plein. Concrètement, c'est un job à temps plein. Si on veut vraiment faire les choses bien, il faut être à temps plein. Et Blanche était un enfant qui demande la présence constante d'un adulte. C'est pas un enfant qu'on peut mettre dans un coin, même la mettre devant la télé, ça ne marchera pas. Voilà, on peut lui donner un livre, elle va regarder le livre. Mais concrètement, Blanche, elle va nous appeler, je sais pas, moi, peut-être toutes les 15 secondes, elle nous appelle.
Ah oui.
Ah oui, oui, non, non,
c'est une présence vraiment constante.
Constamment, on doit être avec elle. Elle sollicite quelqu'un constamment et à temps plein. C'est très compliqué de donner du temps à un autre enfant. Si par exemple, je suis tout seul avec son frère ou avec sa sœur et qu'elle est avec moi, Blanche, c'est très compliqué d'octroyer même ne serait-ce que 5 minutes à son frère ou à sa sœur, parce qu'elle accapare tout le temps. Et puis au-delà de ça, elle est pas propre, donc il faut souvent aller se changer. Sauf qu'elle ne veut pas aller se changer, forcément. Donc c'est toujours des cris, des colères. Donc on négocie avec son chien qui vient et puis on monte. Et puis quelque chose qui pourrait prendre 5 minutes, en réalité on prend 20, et donc mine de rien, une journée est vite passée, et donc c'est vrai que c'est vraiment pour le coup un job à temps plein. C'est quelque chose qu'on nous avait dit quand on avait à l'époque, on habitait encore à Compiègne, ma femme travaillait à Compiègne et moi je travaillais sur Paris.
Est-ce que je peux te demander en fait, ouais, ce que vous faisiez comme travail avant, peut-être?
Bien sûr.
J'ai compris que ça avait changé, en fait.
Ça a beaucoup changé. Alors, surtout pour moi, parce que ma femme a eu cette chance de pouvoir rester. Cette chance, ça a été des choix, puisque pour ma part, ça a été des choix aussi, fait en toute connaissance de cause. Ma femme, en fait, elle est claire de notaire depuis toujours. C'est sa formation. Donc, elle était déjà claire de notaire, en fait, avant sur Compiègne. Et après, on a trouvé un boulot. Enfin, on a dit, il fallait qu'on vienne sur Amiens. Alors, déjà, de un, parce qu'on avait de la famille, des amis sur Amiens, chose qu'on n'avait pas vraiment sur Compiègne. Ouais. Mais surtout qu'au-delà de ça, toute la prise en charge médicale de Blanche était sur Amiens.
Du coup, il fallait vraiment se rapprocher.
Ah bon, on faisait constamment des navettes tous les jours.
Ça aurait été à Perpignan, t'aurais été à Perpignan.
Ah oui, oui, tout à fait, bien sûr. Ah oui, oui, sans même en un autre. Et donc du coup, c'est de là qu'on a fait le choix à un moment donné de dire bon, stop, il faut qu'on bouge parce que c'est plus gérable. Donc en fait, ma femme, ça a commencé comme ça. C'est ma femme qui a cherché un travail sur Amiens et elle a trouvé un travail de clerc de notaire. Et du jour où elle a trouvé, on a dit bon bah banco, c'est parti, on y va. On a vendu notre maison en 15 jours de temps sur Compiègne. On est venu vivre sur Amiens. Moi, je faisais Amiens-Paris tous les jours. Et puis ça a duré, on va dire, 6 mois. Il a fallu d'une crise de trop en fait concernant Blanche, où après je suis allé retourner bosser avec vraiment une boule au ventre. Donc moi, à ce moment-là, moi sur Paris, j'étais photographe de mode et publicitaire.
Ah ouais, d'accord. Okay.
Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Et donc, voilà, j'étais là-bas depuis un peu plus de 7 ans, vraiment établi. J'étais avant à mon compte. J'avais monté une entreprise de communication que j'ai arrêtée, en fait, pour aller travailler là-bas pour une entreprise qui m'avait fait du gringue un bon moment. Et puis, voilà, il est arrivé un moment où... quand on est à son compte pendant quelques années et qu'on prend pas forcément de vacances, etc., etc., il y a un moment donné où on prend un peu la raison. Puis là, c'était une proposition qui était assez folle. Donc, comme m'avait dit ma femme à ce moment-là, il n'y a qu'un fou qui refuserait. J'aurais été capable. Mais bon, j'y suis allé quand même. Et donc, ça a été une superbe aventure.
Photographe de mode, quoi.
Photographe de...
Tu rentres dans un milieu
Select. C'est restreint, c'est select, ouais. Ouais, pour le coup. Et moi, j'étais vraiment spécialisé dans tout ce qui était maroquinerie et chaussures de luxe. Et donc voilà, je ne faisais que ça, que de la photo de maroquinerie et de la chaussure. Donc c'était une expérience incroyable, c'était super. Et voilà, c'était merveilleux, c'était un très bon job. On gagnait très bien notre vie, ma femme, tout comme moi. Donc voilà, c'était super, mais pas du tout en adéquation avec la vie qu'il fallait que l'on mette en place vis-à-vis de Blanche, en tout cas. Donc moi je me levais à 5h pour partir à 5h20, je rentrais à des 20h, 21h tous les jours. Mmh. Bon voilà, c'est compliqué, hein. Donc déjà, même ne serait-ce qu'avec une vie de famille classique, je pense que faut être fou en fait pour continuer avec un rythme pareil. Mmh. Donc là, ça nous a permis en fait de recentrer un peu les choses aussi quelque part. Et donc il a fallu en fait d'une fois où Blanche a fait une crise d'épilepsie, où moi j'ai pas pu être sur place tout de suite vu que j'étais à Paris. Et je n'étais pas en moto, rien, donc là pour le coup j'étais en train, il a fallu que j'attende d'avoir un train pour revenir, enfin c'était très compliqué.
Mmh. Je suis arrivé... Du coup, c'était plus 3 heures en fait pour revenir.
Ouais, et je suis arrivé aux urgences pédiatriques vraiment dans un état pas possible, parce que bah j'étais pas là, ma fille aurait pu y rester, et j'étais pas là.
Et il y avait quel âge à l'époque?
Ah bah ça c'était maintenant, il y a... Bah ça commence à faire quelques années quand même, parce qu'elle devait avoir dans les 3 ans, ouais. Quelque chose comme ça. À peine, ouais. Elle devait avoir à peine 3 ans. Et donc là, en fait, j'ai fait le choix à ce moment-là. Ça a été très vite dans ma tête. Hein. Le lendemain, je suis resté aux urgences pédiatriques avec Blanche à son chevet. Le surlendemain, je suis retourné au boulot en ayant déjà parlé avec ma... Non, c'était le soir. Je suis retourné au boulot, mais j'avais un nœud au ventre, pas possible. Et arrivé sur place, je me suis dit non, c'est pas possible, quoi. Mm. Et donc j'ai claqué ma démission. Ah ouais. J'ai même pas cherché, j'ai vu avec la directrice marketing qui était ma chef entre guillemets, on va dire direct, et Charlotte à l'époque, je lui ai expliqué, elle m'a pris dans les bras, elle en a pleuré, elle m'a dit non mais voilà, écoute, y a pas de souci. Elle m'a dit le seul truc c'est qu'on veut que tu recrutes la personne qui te remplacera parce que ouais. On voit pas comment ça va être possible en fait, on voit pas qui on pourra prendre pour te remplacer, donc du coup j'ai recruté la personne qui m'a remplacé. Et qui n'a pas tenu très longtemps, malheureusement. Ça a rechangé rapidement après. Mmh. J'ai su après, mais bon, ça c'était un autre problème. Et puis, voilà, donc je suis parti. Donc je suis resté sur un mien à peu près pendant 6 mois, sans travailler vraiment, m'occuper à temps plein de Blanche. Donc ça, c'était vraiment super. Et puis après, je me suis dit, bon, j'avais encore du temps devant moi, mais je me suis dit, bon, on va essayer de réfléchir un petit peu à mon CV, ce qu'on va faire. Parce que là, maintenant, l'idée, c'est qu'il faut qu'on trouve une organisation au niveau de notre vie qui sont en totale concordance avec les besoins de Blanche. La photo sur Amiens, on va oublier tout de suite. Mmh. Donc j'ai dit maintenant, il va falloir que je donne une autre corde à mon arc. Et donc là, j'ai candidaté à plein de choses. J'ai décroché 8 CDI en tout, dans des trucs divers et variés, de commercial chez Culligan à plein d'autres trucs. Et j'ai fini en fait par être responsable en fait d'un magasin de grande distribution sur Amiens.
Ouais.
Donc ça, c'est une expérience qui a duré 2 ans. Je me suis dit, dans tous les cas, alors ça me plaisait pas, mais je me suis dit, ça, de partir dans la grande distribution, ça va pouvoir me permettre de pas mal étayer.
Vous pouvez savoir dans quel secteur, sans dire le nom.
C'était pour l'ancienne Bio C'est Bon.
Ah oui, d'accord.
C'était vraiment,
oui,
ouais. Voilà, un magasin Bio C'est Bon. Et après, l'idée, c'était de faire une étude de marché pour implanter, ouvrir un deuxième magasin, recruter, former des personnes.
Mais rien à voir avec la photographie.
Ah non, pas du tout, du tout, du tout. Ils ont fait vraiment, c'était vraiment un challenge, un parti pris, un risque qu'ils ont pris en me prenant. Et puis ça, concrètement, ça a matché. Après, ils cherchaient surtout un manager, chose que j'étais sur Paris. Et donc voilà, voilà, ça a permis en tout cas de beaucoup aider. On avait une bonne équipe, ça se passait très bien. Et bon, arrivé pratiquement un an et demi après...
Je me permets juste la petite parenthèse. Ouais. T'en parles à ce moment-là, justement, de tes contraintes familiales. Justement,
pas vraiment.
C'est,
pas vraiment. La grande distribution, c'est un milieu. Un milieu compliqué. C'est un milieu. Voilà. Il n'y a pas trop de place, en tout cas, pour ça. En tout cas, moi, de ce que j'en ai vu. J'ai des amis qui dirigent des magasins de grande distribution, des hypermarchés même, etc., supermarchés. Et je connais leur qualité humaine et je sais que ça ne doit pas se passer comme ça chez eux. Mais de manière générale, moi, de ce que j'en ai vu dans la grande distribution, il n'y avait pas forcément de place pour ça. Quoi. C'était ouais, bon, ouais. Voilà, si tu ne peux pas t'adapter au boulot par rapport à tes contraintes, bah, c'est tout, tu pars et puis voilà, quoi. Et donc c'était, voilà, nous on avait un magasin qui était ouvert 7 sur 7, j'y étais 6 jours sur 7, les week-ends, etc., je fermais le magasin tard, après quand on est chef, c'est toujours pareil, hein, faut aussi montrer l'exemple, donc bah, j'étais là tôt le matin, j'étais là tard le soir, je vérifiais les caisses avec les employés, etc., etc. Donc au bout d'un moment, ma femme a mis aussi un petit coup de point sur la table à se dire attends, si t'es parti de Paris, c'était aussi pour dire, parce que là déjà de 1 tu gagnes beaucoup moins ta vie ici comme ça que ce que tu faisais sur Paris, pour finalement pas être forcément beaucoup plus disponible, a dit enfin concrètement ça va pas quoi, enfin ouais. Et elle avait raison, et de toute manière le boulot me plaisait pas. Et à ce moment là est arrivée une opportunité où qu'on m'a proposé, au début j'ai refusé, puis finalement on y est allé après avoir une seconde offre. Et en fait, je me suis retrouvé banquier. Donc, ça fait aujourd'hui 6 ans que je suis banquier.
Ah ouais ?
Ouais, ouais. Encore une fois, rien à voir. Mais en fait, alors, je suis parti dans cette aventure parce que donc je travaille en fait dans un groupe, le groupe Crédit Agricole.
Ouais.
Et donc un groupe qui est structurellement tellement énorme que je me suis dit là, je pense qu'on arrivera à trouver quelque chose pour s'adapter moi à mes contraintes. Chose qui a été faite, puisque aujourd'hui je travaille à temps partiel, je travaille à 80%. J'ai besoin de partir 2 jours dans la semaine plus tôt et j'ai besoin de mon vendredi après-midi pour être avec Blanche. Parce que l'institut où elle est, en fait, ce qu'il y a de génial, c'est que ça ferme tous les jours à 16h, c'est fermé le mercredi après-midi, c'est fermé le vendredi après-midi.
Ah ouais.
Donc c'est très difficile. Conjugable avec ouais, des gens qui ont une activité professionnelle. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué, mais on a pu s'adapter. Ma femme, elle, de son côté, pareil. Donc moi, sur 2 jours, je pars plus tôt et sur le vendredi, je gère. Et ma femme, sur les autres jours, du coup, elle gère de la même manière. Donc elle est à temps partiel aussi, elle, avec son travail de clerc de notaire sur Amiens. Et moi, aujourd'hui, de banquier sur Amiens, pareil. Donc Crédit Agricole, lui, me permet en tout cas d'accéder à ça. Et aussi le nombre de congés, puisque bon, on a aussi plus de 5 semaines de congés payés. Chose que j'ai toujours connue avant, sauf que là, on en a quand même plus. Et l'institut où est Blanche est fermé systématiquement de la moitié de toutes les vacances scolaires.
D'accord.
Donc, du coup, avec 5 semaines de congés payés par an, c'est pas possible. Parce que là, il n'y a pas de PS scolaire, il n'y a pas de centre aéré, et ça n'existe pas. Dans le monde des personnes en situation de handicap, ça n'existe pas tout ça.
Donc, et puis, comme tu le disais, en fait, comme tu dois avoir en fait quelque chose de très réglé, très normé, tu peux pas non plus déléguer en fait à quelqu'un de la famille, par exemple, qui viendrait, comme on fait, comme moi je fais avec mes enfants, papy, mamie, papou, mamou, qui viennent.
Blanche, elle est systématiquement toujours avec nous. On a concrètement sur les doigts de la main, je peux compter 5 personnes en effet. À qui on a déjà pu laisser Blanche, voilà, pour la faire garder. Faut que, voilà, il y a, voilà, entre guillemets, faut qu'on cherche toujours qu'il y a, entre guillemets, une certaine expertise médicale, en tout cas dans le coin.
Ouais.
Donc là, on a des amis, c'est déjà arrivé qu'ils puissent la garder, dont mari est médecin, etc. Ouais. Voilà, parce que c'est
au cas où il y a une crise d'épilepsie, au moins on sait comment.
Ouais, et Blanche, elle peut faire ce qu'on appelle aussi des crises d'épilepsie silencieuses. Ouais. Donc il faut constamment avoir un œil sur elle.
Là, tu m'as perdu. Crise d'épilepsie silencieuse.
Ouais,
je suis désolé.
Qu'en fait, elle peut tout à fait être assise dans un coin. Et on se dit, bah tiens, parce que Blanche est quelqu'un de très énergique, très vivante. On sait quand elle est là et on sait quand elle n'est pas là. Et quand elle est là et qu'on ne l'entend pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est déjà arrivé à l'IEM où elle est aujourd'hui, où ils sont littéralement passés à côté, où Blanche était assise dans un coin et ils ne l'entendaient pas. Et en fait, Blanche était en train de faire une crise d'épilepsie, mais pas une crise d'épilepsie comme on peut voir habituellement, où elle va convulser. Voilà.
Ce qu'on voit dans les films, clairement, quand
tout à fait,
agir un peu.
Tout à fait, c'est ça, une vraie crise d'épilepsie. Ouais. Et là, pour le coup, elle avait fait une crise d'épilepsie silencieuse, donc elle était assise dans un coin et en fait, son cerveau, c'était juste, voilà, un peu comme un tableau électrique qui a disjoncté. Ben là, c'était plus de son, plus d'images. Ils sont littéralement passés à côté. Elle est revenue à elle, mais elle était complètement dans les vapes, etc. Ils ont commencé à se poser des questions, mais il était déjà un peu tard. Où là, ils nous ont appelé. Donc là, nous, on a dit non, faut appeler le SAMU immédiatement, etc., etc., etc. Et après, on est allé à l'hôpital et il s'avère en effet qu'elle, en fait, là, elle était en post-crise. Et bon.
Wow. Sujet compliqué, mais tout ça pour dire qu'en effet, pour garder Blanche, c'est... Et même nous, en fait, en tant que parents, on n'est jamais à l'aise avec ça parce qu'on sait, entre guillemets, que alors même si Blanche, on l'aime et qu'elle est très solaire, c'est pas un cadeau qu'on laisse. C'est une vraie contrainte. Ouais. Et donc, si nous, c'est pour se permettre de se prendre du bon temps pour aller se faire un petit resto et un ciné, en fait, on va même nous pas profiter forcément de notre moment parce qu'on culpabilise à se dire, en fait, on se prend du bon moment, mais pour de l'autre côté, là, ceux qui la gardent, ça doit être compliqué à gérer. Et bon, voilà. Et du coup, c'est vrai que ça arrive très, très rarement dans l'année, en tout cas, qu'on ait des temps morts où on se voit pas avec Blanche. C'est très rare. Et parce que bon, voilà, c'est compliqué à gérer, quoi. Ouais. C'est compliqué à gérer. Ouais. Mais bon voilà, donc après c'est vrai que c'est un rôle au quotidien en effet. Voilà. Donc aujourd'hui en tout cas on a des situations professionnelles qui sont bien établies, qui sont bien stabilisées, l'un comme l'autre. Et j'ai eu la chance de refaire une exposition photo il y a 2 ans de ça à peu près. Moment à peu près où on a créé l'association. Et ma femme m'a dit, bah écoute, là que maintenant on arrive quand même entre guillemets à se mettre un peu sur des rails en termes d'organisation et tout, peut-être que tu pourrais te reprendre un petit peu de temps pour toi et refaire un peu de photos. Et puis la photo, en effet, moi je peux pas m'en passer, donc c'est compliqué. Donc,
c'est un peu ta passion quoi.
Ça a toujours été ma passion, en effet, depuis que j'ai une dizaine d'années. En effet, c'est impossible.
Sans photographe, on n'est pas photographe pareil.
Par hasard. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on n'a pas vu une offre d'emploi passer pour se dire tiens, on va devenir photographe, on y va. Non, voilà. Et puis ça demande une vraie technique. Il y a une vraie étude de l'œil à étudier l'art, etc. Moi, j'ai étudié de manière générale le cinéma avec une école photo aussi, etc.
Ouais, t'as fait une école photo.
J'ai fait une école photo, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc bon, voilà. Donc là, je me suis dit, voilà, je vais reprendre un petit peu de temps, je vais me remettre un petit peu à la photo. Donc je me suis déclaré, j'ai voulu le faire sans chichi, sans prétention, sans rien. Je me suis déclaré en tant qu'artiste-auteur. C'est un statut qui est très avantageux fiscalement parlant, mais qui est, voilà... Il permet pas forcément de faire grand chose, mais ça me convient très bien, parce que de toute façon, j'ai pas le temps pour faire autre chose. Donc aujourd'hui, voilà, je fais des photos passion quand j'ai le temps.
Je rentre un petit peu dans le détail, mais ouais. Pour tous ceux qui voudraient peut-être, potentiellement, qui s'imaginent peut-être effectivement partir effectivement sur la photo, tu disais ouais. ce statut, tu disais c'est avantageux. En fait, quels sont les avantages? Parce que du coup,
le statut d'artiste-auteur, il est très avantageux dans le sens où on va être imposé au niveau de l'URSSAF. Alors moi, je suis artiste-auteur et je suis en BNC, bénéfices non commerciaux. Ouais. Et en fait, concrètement, on va ne payer de l'URSSAF que sur notre bénéfice.
D'accord.
Donc à partir du moment où on fait pas de chiffre, bah il y a pas de charge à payer. Mmh. Si on fait du chiffre, bah il y a des charges à payer. Par contre, si derrière ça, bah on a acheté un appareil photo et qui comble le prix des photos qu'on a pu vendre, et ben en fait concrètement, on n'a pas de charge à payer. Ouais. Donc c'est très avantageux. Par contre, c'est très restreint dans ce qu'on veut faire derrière. C'est uniquement fait pour les personnes qui veulent vendre des tirages d'art en fait.
Ouais, d'accord.
Concrètement, c'est juste ça. Et alors on peut faire des prestations annexes, de formation, des choses comme ça, mais il faut que ça reste de la prestation accessoire.
Et tu pourras pas faire, par exemple, une prestation de photographie sur un mariage, par exemple?
Non, pas du tout, pas du tout. Chose qu'on m'a déjà demandé maintes et maintes fois, mais que déjà je n'aime pas faire et que non. Puis j'ai pas le temps. Et voilà. En tout cas, si j'ai du temps à consacrer, c'est pas pour ça, quoi. Donc voilà. Donc ça, voilà. Aujourd'hui, c'est cet avantage que j'ai, c'est que je me balade. Et je fais de la photo vraiment d'architecture urbaine, ça c'est ma passion, moi, ça c'est mon truc, en noir et blanc, et voilà, quand j'ai un truc qui me plaît, bah, je fais une photo, sur mon téléphone, j'ai une wishlist des coins, des fois je passe, que ce soit en vélo, en voiture, en moto, peu importe, je vais voir un endroit, je me dis, tiens, cet endroit-là, avec une lumière comme ça, ça pourrait être pas mal, il y a une photo à la Vallée des Vignes que je veux faire depuis des lustres, je me la suis notée, il faudrait que j'y aille un soir, une fois qu'il a plu, pour y aller, pour la faire, donc je me le note avec les conditions météo à côté, etc., et le jour où je peux prendre le temps, bah, je vais me prendre une demi-heure, je vais faire l'aller-retour, je vais me faire la photo, après je la retouche un petit peu, sans jamais transformer mes images, et puis après, bah, je mets en ligne. Et puis voilà, et puis il y a des photos que je vends, il y a des fois j'en vends pas, mais peu importe, je le fais sans prétention.
C'est marrant pour un gars qui faisait de la photo de mode en fait. Donc du coup, quand tu fais de la photo de mode, tu photographies des humains en fait. Et là, tu te dis, bah, moi ma passion c'est quand même l'architecture. Donc,
c'est ça.
C'est quelque chose de non-vivant en fait de base.
Je fais, à titre personnel, je fais de la photo qui est, comme j'aime le dire, humainement aride quoi. Il n'y a pas d'humain dans mes photos. Bon après, quand j'étais sur Paris, J'allais au studio photo, moi typiquement je m'éclatais quand je faisais par exemple de la nature morte. Je pouvais être enfermé dans la journée, toute la journée entière par exemple dans le noir, avec juste mes flashs, et puis préparer des shootings pour de la nature morte, des choses comme ça, je m'éclatais. Après à côté de ça je faisais énormément de photos avec des mannequins, et voilà, mais c'était voilà, tout à fait autre chose. Et mais c'est vrai que prendre les gens en photo, j'ai toujours été très mal à l'aise avec ça, sauf avec les mannequins, parce que c'est leur boulot, et que voilà, c'est une prestation, on choisit les mannequins depuis un composite en fonction de ce qu'on veut faire comme photo, on dit bon bah voilà, il me faudrait une fille ou un gars un peu comme ça, telle grandeur, telle corpulence, enfin peu importe. Et un peu comme un catalogue, quoi. On se dit bon bah voilà, je prends ça, t'es dispo quand, telle date, ok machin, tu viens, bah c'est 1000 euros la demi-journée, tu viens, hop, et puis la personne qui vient, bah c'est une prestation, elle doit faire ce qu'on lui demande. Un peu comme un acteur, c'est un peu la même chose, hein. Et puis voilà, que de prendre des gens comme ça gratuitement dans la rue, j'ai toujours été très mal à l'aise avec ça, c'est pas mon truc, quoi. Bon, ça après voilà, c'est autre chose. Après là j'y consacre très peu de temps parce que la photo en tout cas, parce que maintenant il y a l'association qui est venue se greffer là-dessus.
Alors du coup l'association, voilà, j'allais y venir parce que l'association elle émane effectivement forcément de ton expérience avec Blanche.
C'est ça.
Et
de la photographie, on a essayé un peu de conjuguer l'utile et l'agréable. Et
comment ça te vient cette idée-là à un moment donné, parce que tu te dis...
En fait, ça faisait un moment qu'on réfléchissait dans l'idée de créer quelque chose, parce qu'en fait, nous, on s'interroge et on est très anxieux par rapport à l'avenir de Blanche. Ouais. On se dit, si un jour, nous, avec ma femme, on n'est plus là, comment ça se passe
en tant que parent,
et c'est une problématique, en fait, pour énormément de personnes aidantes, quoi. Et donc,
j'irais même plus, en fait, c'est une problématique pour tous les parents, en fait.
De manière générale.
De manière générale. Mais je comprends,
après,
en fait.
Quand on a un enfant, on sait qu'il sera capable, en tout cas, d'être autonome. Là-dessus, en tout cas, je suis beaucoup moins anxieux vis-à-vis de mon fils ou de ma dernière fille.
Bien sûr, bien sûr.
Mais pour Blanche, si demain on n'est plus là, c'est tout son monde qui s'écroule. Et comment elle va survivre, c'est pas possible. Ou alors, il va falloir la mettre dans un institut. Il faudra qu'elle soit placée dans un institut où, très concrètement, on va pas se mentir, il se passera rien pour elle. Elle sera un peu sédatée et puis mise dans un coin. Et puis voilà, ça sera une solution de gardiennage. Parce qu'on s'est déjà beaucoup renseigné. En tout cas, on ne trouve rien qui soit en totale adéquation avec ce qu'il faut pour Blanche. Et donc, de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on s'est dit, on va créer notre chance. On va, nous, créer la structure qui fera que plus tard... elle sera suffisamment puissante pour l'accueillir. Et l'idée, c'est qu'en fait, on s'est dit... donc, ça faisait un moment où on en parlait, on se disait, on va créer une structure associative avec la photo, on savait pas trop comment, etc. Et puis, un jour, c'est un peu mon beau-père qui s'est dit, allez, on met le coup de pied dans la fourmilière, on y va. Et il a été, dans son coin, créer l'association. Et il a dit, bon, ben, maintenant, faut y aller. Et du coup, ça nous a mis...
C'est lui qui a déposé les statues et tout ça.
C'est lui qui a été déposé les statues. Voilà, on avait déjà discuté de l'association, de ce qu'on voulait faire dans les grandes lignes, mais il a dit...
C'est génial, parce que tu as un soutien quand même...
on a un soutien familial qui est vraiment important et primordial même, à vrai dire. Et c'est vrai que tout le monde s'est embarqué un peu dans l'aventure, parce que c'est vraiment une aventure familiale, pour le coup, l'association. Et donc voilà, mon beau-père a lancé le truc et on s'est dit c'est parti. Et c'est lui qui a eu l'idée après de se dire mais pourquoi on créerait pas un salon de la photo, quelque chose en lien un peu par exemple avec ce qui se passe au festival de la bande dessinée. Parce qu'en fait c'est un peu ce qui nous a inspiré. Ça nous a un petit peu inspiré par rapport à ça, le festival de la bande dessinée. On s'est dit c'est quand même quelque chose qui existe maintenant depuis, si je dis pas de bêtises, entre 17 et 20 ans là. Et donc du coup, aujourd'hui,
un gros événement qui rassemble beaucoup de monde.
C'est un événement qui est énorme, qui a une aura internationale même. Et du coup, ils ont en tout cas des personnes qui travaillent pour la structure en fait à temps plein vraiment. Et nous, on s'est dit mais il faut qu'on fasse quelque chose comme ça avec la photo.
Avec la photographie. Voilà. Ouais.
Et de là est née l'idée de créer un festival de la photo. Donc en fait, on a l'association où on s'est dit. Avec l'association, on va faire des petites actions photo. Donc, on a fait par exemple des expositions photo au niveau de la Haute-Oie où on va exposer des photographes locaux. On va faire un appel à candidature, des photographes locaux vont venir exposer. Et puis, s'ils vendent des œuvres dans la journée, et ben dans ce cas-là, il y a une partie qui est reversée auprès de l'association. Parce qu'ils viennent gratuitement et nous, on fournit tout, hein, le matériel, tout. Ils ont juste venir avec leurs photos, ils les accrochent, c'est tout. Et nous, on gère tout le reste. Ce qu'on a de la chance quand même, entre guillemets, c'est qu'on a quand même un réseau assez étoffé.
De par ton passé de photographe aussi, non?
Bah, par tout le monde, en fait. J'ai mon beau-père qui a aussi travaillé à la ville d'Amiens il y a quelques années. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, on connaît un peu de monde sur Amiens. Et du coup, par réseau, ça va toujours un petit peu vite à se dire ah bah j'aurais besoin de ci ou ça, bah je connais peut-être un tel.
Ouais, bien sûr, c'est normal, il faut utiliser ce réseau.
Et ça crée une émulation qui est complètement folle. Et une fois qu'on a commencé à mettre le nez dedans, et ben allez, c'est parti, faut y aller quoi. Et
puis une cause qui est juste aussi, hein, c'est pas.
Oui, en effet, c'est sûr que la cause entre guillemets elle se vend facilement. Là-dessus, il y a pas de souci. Après, la photographie, c'est compliqué. Mais on parle avec des artistes, les artistes c'est jamais simple, en tout cas pour ceux qui se veulent vraiment artistes, c'est des fois un peu compliqué. Et mais bon voilà, après c'est le jeu aussi. Et là aujourd'hui voilà, on a surtout cette ambition, c'est cet événement majeur qui est le Festival de la Photo. Donc on a fait le premier événement l'année dernière. Là il y a le second qui arrive là au mois de juin, le 15 et 16 juin, donc là c'est le second qu'on met en place.
Donc ça, 15 et 16 juin, à l'espace de Wailly.
À l'espace de Wailly, exactement, tout à fait. Où là, il va y avoir donc ce fameux festival de la photo. Donc là, en fait, le principe, pour faire simple, c'est qu'on veut vraiment créer un événement majeur au niveau de la photo sur Amiens. Un peu à l'image du festival de la BD, mais vraiment sur la photo. Où là, pour le coup, on a deux conférenciers qui viennent. On a vraiment deux superbes conférenciers. On a Arto Pazza et Gildas, le petit Castel. Arto Pazza, accessoirement, qui est quand même aussi sur Arles, des choses comme ça. Donc bon, quand même, on a quand même des personnes très sérieuses. Donc on va avoir deux superbes conférences photo le samedi matin, gratuites. Tout le monde peut venir. Ouais. Donc ça, faut surtout pas hésiter. Les gens qui aiment la photo ou autre, eh ben, de venir. Il va y avoir un thème sur l'influence et un thème sur la photographie à deux, avec en parlant du photographe et du modèle. Donc il y aura ces deux thématiques-là cette année, en tout cas sur le samedi matin. Il va y avoir une cinquantaine de photographes qui vont exposer leurs œuvres de manière très éclectique. Ça va aller à des professionnels, à des amateurs, des gens très avertis, à des gens qui n'ont jamais fait une exposition photo, à des gens qui font la photo depuis très peu de temps et d'autres qui en font depuis 20 ans, 30 ans. Des gens qui ont été primés, qui ont reçu des prix pas possibles, avec des gens qui n'ont jamais rien eu. Il y a vraiment, on se veut vraiment que le festival soit très éclectique, que la photo soit accessible à tout le monde. Il va y avoir de la photo animalière, culinaire, de portrait, ce qu'on appelle de lifestyle, de reportage, de la photo documentaire, de la nature morte. Enfin, tout le monde peut y trouver son compte. C'est vraiment, voilà, on veut pas un secteur, se mettre sur une thématique précise. On veut que n'importe qui vienne voir de la photographie. La photo animalière, ça parle souvent à beaucoup de monde. La photographie sportive aussi. Enfin, voilà. Et après, il y aura des choses un peu plus conceptuelles, des photos plus artistiques, des choses comme ça. Et donc, tous les photographes exposent gratuitement, toujours. Et par contre, derrière, ils nous reversent en fait à l'association, enfin, ils nous lèguent deux photos, deux œuvres qu'on va vendre aux enchères. Ça, c'est quelque chose dont on est assez fier et qui nous distingue de beaucoup de choses qui peuvent se faire sur la photo. C'est qu'en fait, on va avoir une vente aux enchères qui vont se faire avec le commissaire priseur Maître de Lobo, le cher Arcadia. Donc le samedi après-midi à 16h, donc on va avoir en tout à peu près 80 œuvres. Donc là je suis en train de confectionner en ce moment le catalogue. On va avoir 80 photos en tout à peu près à vendre. Et le commissaire priseur sera là pour taper du marteau le samedi à 16h pour les vendre. Donc voilà, n'importe qui peut venir gratuitement dans l'auditorium du cloître de Wailly et acheter des œuvres.
Donc ça veut dire en fait que si je suis intéressé par la photo, je vais au Festival de la Photo et je peux repartir avec une œuvre le soir.
C'est ça.
Que je vais acheter aux enchères. Exactement. Et dont les profits vont aller directement dans les caisses de l'association.
Exactement. Ça, les photos sont données à l'association et la vente qui est faite par le commissaire priseur, qui le fait aussi gratuitement, vraiment de manière bénévole, c'est super. Et donc tous les fonds seront reversés à l'association. Et ces fonds-là, en fait, on s'en sert derrière pour mener des actions caritatives. Et l'année dernière, avec ce qu'on a pu récupérer de la vente aux enchères, on a financé une tablette numérique pour une petite fille qui, comme Blanche, n'est pas verbale, mais qui, elle, a plus de motricité fine. Donc, elle peut utiliser une tablette et on lui a financé une tablette numérique.
Donc, une tablette comme un iPad. Hein,
oui, exactement. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est une Windows pour le coup, parce qu'il y a avec un logiciel dédié, en fait, pour pouvoir, comme Blanche, elle a un pod en classeur. Ouais. Là, c'est la même chose, mais en version digitale, numérique. Et donc, du coup, on lui a payé la tablette avec la licence du logiciel.
Ouais, donc, quand tu parles du pod, en fait, hein, le pod, pour rappel, c'était le
classeur avec toutes l'iconographie,
effectivement. Voilà, et donc là, ça. Du coup, si je comprends bien, en fait, elle a cette tablette-là avec ces petites images,
voilà.
Et où en fait, elle a toujours sur
elle choisit en fait ses icônes et les icônes parlent. En fait, ça peut faire un phrasé et dire une phrase en fait pour elle. Donc pour communiquer, c'est super. Donc on a financé ça pour une petite fille, Anaïs, l'année dernière. D'accord. Et on a financé
qui
aussi
se dans la région aussi,
qui se trouve dans la région. Ouais. Pour le coup, ouais. Elle est pour le coup non, elle est pas loin d'Amiens. Et donc on lui a financé ça en fin d'année. Et puis ça, avec les fonds, on a pu aussi financer 10 séances en tout cas de formation Snows Helen. C'est des formations en fait de, pour les gens qui connaissent pas, c'est des formations, en fait c'est une Snows Helen, c'est une formation, une séance de relaxation sur des matelas à eau chauffée, des choses comme ça. Donc ça demande un petit peu de matériel et un petit peu de technique. Et donc il y a il y a des formations qui se sont passées avec les bobos à la ferme du côté de Quin, sur la côte. Et donc en fait on a payé 10 formations Snows Helen pour des familles, alors souvent des mères seules avec leurs enfants, où elles ont pu aller là-bas, donc on leur a tout payé, défraiement, trajet, etc. Et la formation sur place pour 10 familles complètes là-bas.
Ah, c'est top.
Donc l'année dernière, la vente aux enchères.
Les familles en plus, parce que c'est vrai que ça, on l'oublie souvent, mais il n'y a pas que le soin en fait. Il y a aussi la famille qui vient avec, etc.
Exactement.
Et ça coûte un prix faramineux.
Ça coûte cher. Et c'est un. C'est pas un institut, mais ce centre d'accueil, les bobos à la ferme là à côté de Quin, en fait, eux de base, un petit peu à l'image d'un gîte, en fait, proposent ce qu'on appelle des séjours de répit. Donc c'est uniquement pour les personnes qui sont aidants et avec des enfants en situation de handicap, enfin enfants ou pas, hein, que adultes également, où on peut aller là-bas, passer par exemple le temps d'un week-end ou une semaine si on veut, une semaine ensemble, où on va faire tout un tas d'activités. Si l'enfant, je prends mon exemple, mais si Blanche par exemple, on voudrait aller faire du char à voile sur la plage, mais Blanche n'est pas apte à le faire, on peut avoir quelqu'un qui viendra au niveau de la structure des bobos à la ferme, un infirmier ou en tout cas quelqu'un au niveau médicalement, en tout cas qui est vraiment formé,
ouais.
Ou un infirmier, enfin peu importe, et qui viendra faire du relais, du relayage. D'accord. Ouais. Pour que nous, on puisse, par exemple, aller prendre du temps avec nos autres enfants, pour, entre guillemets, faire un peu des activités d'une famille normale, si j'ose dire. Là, on est filmé, je peux pas faire les petites astérix, mais parce que la réalité est là, c'est qu'on peut pas avoir une vie normale. Et ça empathie aussi, malheureusement, sur nos autres enfants.
Ouais.
Et c'est pas toujours simple de trouver un peu le juste milieu, l'équilibre. C'est pas toujours évident. Nos enfants peuvent grandir et parfois ça nous est déjà arrivé, notre fils, de nous reprocher de dire ah bah oui mais il y en a toujours que pour Blanche, parce que bah oui toutes les activités, enfin quand on va sortir pour faire une activité il faut que ça soit adapté pour tout le monde, donc c'est pas toujours évident. Si on veut en faire que pour mon fils, ça ne l'est pas forcément pour Blanche, donc voilà, donc c'est pas évident. Donc cette structure d'accueil là, les bobos à la ferme, permet ça en tout cas.
D'accord.
Donc ça mérite à être connu. Il peut y avoir des prises en charge aussi au niveau des mutuelles, des choses comme ça. Il peut y avoir un reste à charge qui soit assez minime. Donc voilà, des personnes qui sont éventuellement dans cette solution-là et qui ont besoin peut-être d'une soupape, ça peut être vraiment en tout cas.
Je mettrai un lien de toute façon dans le podcast.
C'est vraiment un truc super quoi.
Pour tous les gens qui nous écoutent.
Donc là on travaille pas mal avec eux maintenant. On est beaucoup en relation, on fait pas mal de choses ensemble. Et puis, donc juste pour revenir sur le festival, l'année dernière, la vente aux enchères a permis ça. Donc cette année, j'espère que la vente aux enchères il y aura plus d'émulation. L'année dernière, c'était un peu timide, c'était la première fois qu'on le faisait. Mais bon, ça a permis de récupérer quand même des fonds, hein, mine de rien. Mais cette année, on va avoir des œuvres qui sont quand même, qui vont plus loin. Au niveau de la sélection, on a été aussi plus drastique. L'année dernière, on a eu des photographes vraiment de tout, beaucoup d'amateurs. Cette année, on va pas se mentir, on monte vraiment d'un cran au niveau des photographes.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui peuvent venir à la vente aux enchères et se retrouver à acheter des œuvres pour pas très cher, des trucs super qu'on retrouvera nulle part ailleurs. Il y en a pour beaucoup, c'est même des tirages uniques. Mmh. Il y en a certains en tirage numéroté limité, d'autres au nom, certains avec des certificats d'authenticité, etc. Mmh. Donc, il y a quand même des belles œuvres à acheter.
C'est une question que je me pose de manière très terre à terre, hein, mais justement, ça permet aussi en fait de se dire, c'est fait aussi pour moi. Une œuvre comme ça, en fait, de photos, ça coûte combien global? Alors, même en vente aux enchères, en fait, t'as vu quoi,
concrètement, on va pas se mentir, je pense qu'on va avoir des œuvres qui vont se vendre. On va avoir des œuvres qui vont se vendre pour une trentaine d'euros, comme il y en a qui vont pouvoir partir à plus de 1000 euros.
Ah ouais, quand même. Ah oui, 1000 balles, 1000 euros. Hein, ouais.
L'année dernière, on avait des œuvres qui étaient au niveau des enchères. Alors, c'était en ligne parce que, alors, on a l'enchère, ça va se passer dans l'auditorium, donc avec le commissaire-priseur, mais on va avoir aussi sur place inter-enchères à 2 euros. Donc, pour les personnes qui connaissent pas, c'est vraiment les enchères en ligne, où là, on va avoir au téléphone, on va avoir des personnes sur place avec les téléphones pour prendre les enchères. Et donc, Drouot, notamment, qui est la référence ultime en matière d'enchères dans l'art. Et donc, ils seront présents. Et donc, l'année dernière, en tout cas, on avait des offres comme ça qui étaient enchéries sur 2000 euros.
Ouais, et puis, tu peux avoir de tout, là. Ça enchérit sur le... C'est le monde entier qui enchérit.
C'est le monde entier, parce que l'année dernière, on avait des connexions. La vente aux enchères, on avait des connexions qui se faisaient à l'étranger. On en avait une au Japon, je crois, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises.
Enfin, voilà, japonais,
ça peut aller assez loin. Donc, on espère monter vraiment, en tout cas, en visibilité. Parce que notre point d'orgue vraiment au festival, c'est surtout c'est la vente aux enchères. Ça nous permet de nous démarquer énormément et au-delà de ça, c'est surtout que ça permet aussi aux photographes, alors surtout pour les amateurs, mais peut-être de donner aussi une cote, de voir si leurs photos plaisent ou non. Parce que alors, l'année dernière, il y avait des photos qui ne sont pas parties, il y en a qui ne se sont pas vendues. Malheureusement, ça arrive, et ça sera très certainement encore le cas cette année, je pense, malheureusement. Mais c'est le jeu aussi des enchères.
Bien sûr.
Et donc voilà, mais ça permet, en tout cas, on a eu des superbes expériences. Et l'année dernière, une vraiment qui a marqué, qui a marqué énormément de monde, c'est qu'on va avoir en tout, donc on a une cinquantaine de photographes qui viennent exposer, mais on a aussi, et surtout, je veux le mettre en avant, on a 4 instituts qui viennent exposer aussi. Donc l'année dernière, on avait l'EPSM donc de Pinel. Cette année, ils seront 4. Donc on a l'EPSM de Pinel, on a un foyer de vie, le foyer de Verpillière, La Page.
Ouais.
Avec des... Vraiment, c'est rigolo, avec des gens qui sont déficients visuels.
Ouais.
Et qui font de la photo et qui vont les exposer. Et en fait, c'est des personnes qui sont toutes en situation de handicap, qui vont venir exposer. Et on leur donne, entre guillemets, je trouve, c'est une chance incroyable, c'est qu'ils vont se retrouver, je le vois pour l'année dernière. Je me souviens, par exemple, du petit Kevin, qui est handicapé, qui est adorable comme tout. Il nous donnait des coups de main pour porter les tables au festival, etc. Et il nous a donné 2 photos. Elles valent ce qu'elles valent.
Ouais.
Techniquement, c'est pas forcément, il n'y a pas une technique de dingue dans la photo, mais par contre, elle a une sensibilité. Il y a quelque chose qui se dégage. Et, les photos se sont vendues sur Drouot. Je me souviens encore, j'étais forcément à côté du commissaire-priseur, je me souviens encore, il était en haut à droite, juste à côté de son éducatrice spécialisée, et l'éducatrice était en pleurs, et sur Drouot, ses photos sont vendues pour 140 et l'autre 160 euros, je crois.
Ah, c'est trop bien.
Voilà, ils avaient pas trop de moyens, les photos étaient faites un peu de bric et de broc, ils avaient fabriqué des câbles avec des cartons, enfin voilà, c'était assez incroyable, quoi. Et du coup, cette année, ça a pris de l'engouement. Du coup, je vois, par exemple, Pinel leur ont attribué du budget. Donc là, ils ont du budget. Maintenant, ils ont des cadres. Enfin, c'est super, quoi. Et donc, cette année, ils seront 4 instituts comme ça à exposer. Et ça, c'est une vraie fierté pour nous parce que c'est un petit peu le but et le sens qu'on veut donner aussi à l'association, là, pour le coup. C'est que l'association organise ce festival, mais le but ultime de l'association, donc là, aujourd'hui, en tout cas, à court terme, c'est de récupérer des fonds pour faire des actions vraiment coup de poing un peu là et là pour aider des gens, mais sur le moyen, si ce n'est pour dire sur le long terme, l'idée vraiment même de l'association, c'est de monter en puissance pour réussir à aller chercher peut-être des subventions de la ville, de la région, des choses comme ça, de manière à ce qu'on puisse avoir une personne que l'on puisse embaucher au sein de la structure, un permanent éducateur, pour que par exemple quand Blanche sera plus grande, majeure, et qu'elle devra quitter l'institut où elle est aujourd'hui, on n'aura aucune solution pour elle, si ce n'est soit ma femme, soit moi, arrêter de travailler pour s'occuper d'elle à temps plein. Je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Que là, on pourrait l'intégrer dans la structure.
Ouais.
On aurait un éducateur à temps plein dans la structure, et on y intégrerait Blanche,
Et voilà, il lui trouverait des missions à faire en lien avec la photo pour organiser le prochain festival. Parce que d'ici là, Blanche sera plus grande. Hein. On a une vision, là, on se donne à peu près 7-8 ans.
Ouais. Donc, pour aller effectivement jusqu'à 18 ans.
Voilà, et puis, c'est ça.
Effectivement, après,
pour
intégrer
sa majorité. Voilà.
et intégrer cette personne, ça permettrait d'intégrer aussi d'autres enfants.
Voilà, là, l'idée, après, c'est surtout ça. C'est que là, on essaie de trouver une solution pour Blanche, et après de manière un peu plus altruiste, c'est vrai que l'idée, ça sera de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, mais si techniquement c'est possible, par exemple, d'avoir peut-être deux ou trois autres gamins, enfin je dis des gamins, ils seront majeurs, mais qui intègrent la structure, eh ben pourquoi pas, c'est parti, on y va, et puis on pourra proposer d'autres solutions, en tout cas pour d'autres parents, qui seront peut-être sans solution, et en tout cas il y en a malheureusement. Et on le voit tous les ans, il y a des personnes qui quittent la structure où est Blanche aujourd'hui, parce qu'ils arrivent à leur majorité, et il n'y a rien pour eux derrière. Il n'y a aucune solution professionnalisante, rien n'est fait. Et c'est pour ça que nous, après, l'idée aussi, c'est que moi, j'aimerais bien aussi travailler dans la structure à temps plein pour essayer peut-être aussi, aller après, de proposer des formations photos. Aller dispenser des formations photos dans des instituts, comme par exemple où est Blanche aujourd'hui, mais aussi dans d'autres, pour essayer peut-être de leur donner peut-être des... au-delà d'animer des ateliers photos, des choses comme ça, mais peut-être aussi à amener, à apporter une solution professionnalisante aux gamins. Alors avec la photo, ça sera compliqué, mais de par mon parcours, je peux peut-être aussi proposer des formations de vente ou des choses comme ça, où demain, on pourrait tout à fait avoir quelqu'un, même s'il est en situation de handicap, en sortant à ses 18 ans, si on lui fait une petite formation ou autre, il pourrait peut-être, pourquoi pas, être caissier dans un petit truc à temps partiel ou autre. Enfin, en tout cas, il pourrait donner du sens et faire des choses, quoi. Donc nous, c'est un peu ce qu'on a vraiment en visu sur le long terme. Et donc voilà, donc on y va étape par étape. Ouais. Mais bon, là, on est surtout sur le prochain festival. Là, on est sur des charbons ardents. Là.
Alors, rappelle-moi les dates. Quand
les 15 et 16 juin à l'espace de Wailly, ici sur Amiens.
Voilà, comme ça, on martèle un petit peu la date pour que tout le monde vienne.
Donc, deux conférences le matin, la vente aux enchères l'après-midi, 50 photographes à venir découvrir, les instituts également qui exposeront. On aura la compagnie Artuchot qui sera là aussi. Faut pas hésiter, les parents avec les enfants, faut venir, même pas que, quelqu'un qui a juste envie de se faire une petite photo sympa pour lui. Ben, on aura la compagnie Artuchot qui seront là avec un camion et tout un tas d'accessoires où les gens pourront venir faire une photo gratuitement pour eux en se créant un décor, etc., en faisant et après en tirant la photo et ils pourront repartir avec la photo. Donc il y a trois photographes qui seront dédiés en tout cas à ça avec cette structure-là. Donc ça, il y aura de la restauration avec des food trucks aussi. Donc il y aura pas mal de petites choses.
C'est le vrai festival. C'est un vrai festival.
C'est
de
un
la
vrai
photo,
festival.
En fait.
Voilà.
Du coup, dans 5 ans, on te retrouve. Là-bas, à côté de la gare,
Alfressiné. Pourquoi pas, ma foi. En tout cas, on se donne cette ambition. On verra où ça nous mène. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une aventure familiale. En fait, les gens ont l'impression, parce que c'est vrai que le festival prend quand même une ampleur assez dingue. En tout cas, pour nous, quand on le regarde un petit peu de l'extérieur, on se dit, on organise quand même un truc de dingue.
C'est formidable.
Mais très concrètement, on est 3-4 en fait à organiser ça. Et on fait ça chacun bénévolement en dehors du boulot.
Est-ce que c'est aussi un appel que tu fais s'il y a d'autres gens qui veulent.
Qui veulent rejoindre l'association. On veut vraiment garder aujourd'hui, en tout cas, la main sur l'organisation de ce qu'on veut faire. Ouais. Après, des bénévoles, en tout cas, pour aider le jour J et surtout par exemple le vendredi, le lundi pour aider à monter les barnums, des choses comme ça. S'il y a des gens qui ont envie de consacrer un peu de leur temps, alors là, ça sera avec un grand plaisir et on saura les récompenser. Mais aujourd'hui, vraiment dans la structure en elle-même, pas vraiment. Mais aujourd'hui, je me rends bien compte que là, l'organisation du second festival est beaucoup plus ardu que la première. Ouais. Sur la première, bon, ça a été compliqué parce que voilà, les journées sont pas extensibles et c'est 4-5 heures de boulot par jour. Au-delà du travail, au-delà de notre vie de famille, de Blanche qui nous voilà, donc c'est tous les jours se coucher à 1h du matin pour traiter les mails, etc., etc. Et les gens se rendent pas compte, mais ils nous envoient des trucs parce je pense que les gens dans leur inconscient doivent se dire, mais vu ce qu'ils organisent, ils ont peut-être quelqu'un qui est vraiment à temps plein dans l'association. C'est pas le cas du tout, quoi. On organise surtout ça de main de fer avec mon beau-père qui est le président de l'association, moi qui la dirige, ma femme qui est secrétaire, qui s'occupe de tout l'administratif, les demandes de subventions, enfants, etc., etc. Ma belle-sœur qui s'occupe de tout ce qui va être vraiment des réseaux sociaux, parce que l'année dernière je faisais ça tout seul et en fait ça prend un temps considérable.
Ouais,
donc là c'est elle aujourd'hui qui s'occupe de ça.
Et on voit effectivement, elle est très présente hein, sur les réseaux
sociaux. Et puis après j'ai une autre belle-sœur aussi qui nous aide pour toute la partie un peu plus rédactionnelle. Je suis pas forcément la personne la plus littéraire du monde, donc elle me corrige, elle me reprend des fois sur des fautes qu'il peut y avoir ou des tournures de phrases pas terribles, etc. Et puis après j'ai mon beau-frère aussi qui est dans la structure et qui nous aide aussi sur diverses missions un peu diverses et variées. Voilà, donc c'est vrai qu'on a on organise vraiment ça d'une main de fer. J'oublie ma belle-mère, j'ai ma belle-mère aussi qui s'occupe de la comptabilité. Si je l'oublie, elle va m'engueuler. Donc c'est vrai que là aujourd'hui c'est ouais ça prend de l'engouement. Parce que l'année dernière, je me souviens encore, tous les photographes qui ont exposé, c'est moi qui ai été les chercher.
Ouais.
Et cette année, on a fait un appel à candidature, on s'est retrouvé avec plus de 150 candidatures.
Ah ouais, quand même.
Donc ça.
Ouais, donc du coup, il y a eu
un vrai engouement et au niveau de la photo sur Amiens, je pense qu'il y a vraiment un créneau, il y a quelque chose à faire. Quoi. Il y a énormément de personnes qui aiment la photo.
Ça n'existe pas en fait.
Non. Et puis ce qui est dommage, c'est qu'Amiens est un vrai pôle photographique par le passé. Il y avait beaucoup de compétences en fait au niveau photo sur Amiens. Il y avait une école photo hein, aussi hein, y a à l'époque hein, il y a des années ça on avait une section photo. Aujourd'hui il n'existe plus vraiment grand chose. Il y a des petites au niveau de l'ESAD, des choses comme ça. Il y a des ateliers photo, des sections voilà audiovisuelles avec Michelet, des choses comme ça, mais il n'y a plus vraiment rien de poussé quoi. Et même en termes de photographes qui ont pignon sur rue sur Amiens, il y en a beaucoup moins que ce qu'il y avait pu y avoir à l'époque. Mais bon, ça vaut pour la photo, ça vaut pour d'autres choses. Je pense que par rapport à ça, en tout cas sur la photo, nous de ce qu'on a pu en voir, il y a un vrai engouement.
Ouais.
Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc voilà, on y croit en tout cas. On y met toutes nos tripes, tout notre engagement possible, parce qu'on y croit. Et au-delà de ça, on le fait pas forcément que pour l'association, on le fait aussi parce qu'on aime notre ville et on veut redynamiser la photo sur un
mur.
Et du coup, aujourd'hui, voilà, on permet aussi à plein de monde de venir exposer gratuitement au festival. Ils vont se retrouver à pouvoir avoir des photos qui vont être vendues sur Drouot, sur Interenchère. Enfin, on offre aussi quand même, mine de rien, un bel outil aux photographes. Ça, je suis assez fier de ça. Ils viennent gratuitement, ils mettent leurs photos, voilà, même s'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens ou autre, on leur demande juste deux photos en fait à nous donner. Même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils peuvent nous donner des simples tirages, même s'ils ne sont pas sous cadre, ça a été le cas pour certains. Voilà, et c'est pas grave. C'est parfait comme ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment. Sur ce format-là, je pense qu'on arrive à mêler vraiment l'utile à l'agréable, à amener quelque chose au niveau de la photo et quelque chose pour les gens. Qui puissent exposer voilà, gratuitement, parce que des lieux d'exposition, on n'a pas beaucoup. Après, il y en a qui se font à l'office de tourisme. Là, d'ailleurs, il y a un appel à candidature en ce moment à l'office de tourisme. Les gens qui veulent exposer, il ne faut pas hésiter à candidater. J'ai eu la chance d'y exposer l'année dernière, c'était super.
Ouais, ouais.
Donc voilà, c'est cette chance-là. Et puis après, au-delà de ça, eh ben, c'est tout l'aspect caritatif qui va se faire derrière et la vente aux enchères avec les photos, etc. Donc ça, faut surtout pas hésiter, en tout cas, à venir acheter des œuvres. C'est pour la bonne cause et les gens pourront... s'acheter des belles offres pour mettre chez eux avec des choses qu'on trouvera nulle part ailleurs.
Ça, c'est super top, ça. Ouais. C'est vraiment un bel engagement. C'est même plus que de l'engagement, voilà, pour le coup, en fait. Hein, une forme d'abnégation. Il y a un sujet, d'ailleurs, hein, il y a quelque chose à toucher du bout du doigt et du bout des lèvres. Et on n'a pas trop évoqué, effectivement. Ouais. C'est effectivement vous dans tout ça, parce que du coup, on a parlé beaucoup de Blanche.
Ouais.
On a parlé beaucoup de l'association.
Ouais.
Mais on a parlé de ton parcours, effectivement, du parcours de ta femme, effectivement, mais on n'a pas parlé beaucoup de votre vie de famille,
ouais.
Qui a dû être aussi bouleversée.
Ah ben, elle a été fortement impactée, ça c'est sûr, hein. Il a fallu qu'on l'adapte par rapport à ça, sauf que, on le fait de manière un peu innée quand même, après ça reste notre enfant et on... Je pense qu'on sait à peu près où il faut aller pour faire les bons choix, mais c'est pas toujours simple. Il y a des choix qu'on doit faire des fois au quotidien où on se dit est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, est-ce qu'on sait pas. Des choses qu'on va imposer à notre fille pour qu'elle en fasse peut-être des acquisitions, mais elle y arrivera peut-être pas, est-ce qu'il fera peut-être pas plutôt consacrer le temps à lui faire apprendre autre chose. C'est compliqué, hein. Honnêtement, ce rôle d'aidant, il est... In fine, je pense qu'il est vraiment... Concrètement, il est quand même inné pour personne.
Ouais.
Et il n'y a pas de formation.
Non.
Il n'y a pas de formation pour ça. C'est-à-dire que on se retrouve du jour au lendemain, parents d'un enfant handicapé, ça nous tombe sur le coin de la figure et on doit faire avec. On n'est pas beaucoup accompagné ou pour les seules structures pour lesquelles on peut être accompagné. Il y en a qui le font peut-être avec beaucoup de bienveillance, mais personnellement je les connais pas. Mais voilà, pour les seuls que nous, on a pu rencontrer, je me souviens encore d'une assistante sociale qu'on avait vue à Compiègne, quand elle nous disait, vous faites quoi dans la vie? Bah, moi, je fais ça, ma femme fait ça. Oh là 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 là, mais il faut bien vous dire, vous n'allez pas pouvoir continuer de travailler comme ça, on gère un enfant handicapé, c'est pas possible. Enfin, jamais on nous a amené des choses vraiment constructives, ni même bienveillantes. C'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Après, il faut un cire blanche pour aller dans un institut, c'est des démarches administratives à n'en pas finir. Là, aujourd'hui, voilà, elle est reconnue avec un seuil d'incapacité à plus de 80%. Alors, ça nous donne, enfin, administrativement, ça nous donne un peu plus d'espace pour respirer. Parce qu'en fait, avant, il fallait refaire les dossiers, c'est tous les ans. Mais en fait, quand le dossier en fait est fait et validé, ben en fait, concrètement, il nous reste à peu près 3-4 mois devant nous avant de se remettre sur établir le prochain dossier.
Ouais, bien sûr, ouais.
Parce qu'en fait, il faut des bilans par des professionnels, sauf que les professionnels, des fois, il faut 6 mois pour avoir les rendez-vous, etc. Et donc, le problème, c'est que si on veut que notre fille, sa prise en charge, elle soit toujours au top, il faut, c'est une charge mentale énorme. C'est vraiment une charge mentale énorme. Les gens sont pas capables de le quantifier ni de le mesurer. Mmh. Et c'est normal. Mais je trouve qu'on a, il y a des vrais progrès à faire par rapport à ça.
Ouais.
Et on se rend compte, nous, hein, que, alors, sans vouloir, voilà, c'est de rester le plus objectif possible, mais
ouais,
je trouve qu'avec ma femme, on a des compétences dans beaucoup de choses. Et je pense qu'on a la force et la volonté de faire plein de choses. Mmh. Et si on peut le faire aussi pour en faire bénéficier d'autres, on le fait. Parce qu'on se rend compte que malheureusement, il y a beaucoup de parents qui sont seuls, sont complètement démunis, complètement perdus. Ils n'ont pas forcément les aptitudes, les facultés cognitives pour se retrouver devant des dossiers administratifs où il faut remplir ça, mais c'est abyssal, quoi. Enfin, les gens sont complètement perdus, les gens laissent tomber, et en fait ils sont complètement mis à l'écart, et eux et in fine leur enfant, il n'en sort rien de bon, quoi. Et donc du coup on le voit, donc il y a des personnes qui sont vraiment perdues, et donc on essaie un petit peu aussi d'amener ça pour le faire, et pour nous, mais aussi pour les autres.
Faut être fort un peu dans un couple pour affronter ce genre
concrètement, on va pas se mentir. On en parlait la semaine dernière justement avec ma belle-sœur qui disait « Mais non, moi je trouve que c'est quand même normal que les parents restent encore ensemble même s'ils ont un enfant handicapé. » Oui, mais le problème c'est que moi je pars du principe que la normalité c'est la loi du nombre. Et en fait aujourd'hui, si on regarde bien, ça n'est pas normal aujourd'hui que les parents soient toujours ensemble alors qu'il y a un enfant handicapé. Ah, parce que c'est...
Faut être soudé, hein.
Ça explose le couple. Nous, on a eu de la chance, c'est que ça nous a d'autant plus soudés, je trouve. On n'a aucun souci à se faire par rapport à ça. Il n'y a aucun débat. Nous, on est soudés. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que ça peut très vite, facilement, faire voler en éclats une famille. Hein, vraiment. Ouais. Après, je pense que ça dépend peut-être aussi des pathologies. Mais il y a des personnes qui sont bien plus handicapées, malheureusement, que blanches. Il y en a qui le sont beaucoup moins. Mais je pars du principe qu'à partir du moment où on est aidant, c'est un peu le même combat pour tout le monde. Il y en a pour certains pour lesquels c'est un peu plus dur. J'ai une pensée émue d'ailleurs, notamment pour une très bonne amie à nous qui a perdu son petit garçon hier, qui était très lourdement handicapé. Et malheureusement, ça fait partie de ça aussi. Ma fille est dans un institut où elle se fait des copains, mais des copains qui vivent aussi pour beaucoup avec parfois une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est le cas de ma fille notamment avec son épilepsie. On peut pas prédire que demain, malheureusement, il y a une crise épileptique qu'on pourra pas voir, qu'on n'aura pas pu anticiper, qu'on saura pas gérer, que tout son système respiratoire va lâcher et à terme son cœur et qu'on n'arrivera pas à réanimer. C'est déjà arrivé une fois. Elle est revenue, mais elle est revenue de loin. Et voilà, il faut qu'on vive aussi avec ça, ça fait partie du quotidien, et bon, c'est pas une vie normale, et comme le dit un très beau livre de Samuel Le Bihan, c'est un bonheur que je souhaite à personne.
Ouais.
Samuel
Le Bihan, il a aussi une fille, hein, je crois, qui est
autiste.
Il a fait beaucoup de choses, qu'il avait mis entre parenthèses sa carrière pendant un moment.
Exact.
Aussi pour s'en occuper.
Il fait beaucoup de choses par rapport à l'handicap, lui et d'autres, Églantine Émeillet, ou tant d'autres encore, qui ont fait des livres qu'on a regardés, qu'on a lus attentivement. Et ça rassure, en tout cas, nous, un peu dans notre démarche, ce qu'on perçoit, parce que des fois, on culpabilise aussi, des fois, à se dire, mais notre enfant, il nous saoule, là.
Ouais, ouais.
Mais c'est normal, en fait, ça, pour le coup, quoi.
Je crois que c'est normal pour tous les parents.
C'est normal de toute manière pour les parents, mais quand on a notre fille qui, en l'espace de 5 minutes, nous a appelé 150 fois, parce que c'est, papa, Regarde, papa, ça va, papa, ça... parce que c'est ça, et c'est comme ça tout le temps. Au bout d'un moment, on a envie de se taper la tête contre les murs. Et d'en échanger, de lire un peu le vécu d'autres, on se rend compte que, bon, ça, on a un peu tous aussi le même combat, et voilà, et c'est bien aussi de parler sans tabou de tout ça, de tout cet handicap, c'est bien aussi d'en parler sans tabou. Beaucoup de gens mettent ça un peu avec un grand velours à se dire oh, attention, oh, il a dit on a handicapé, il a pas dit quelqu'un en situation de handicap. Non mais c'est bon, c'est pas ça qui est choquant quoi. C'est voilà, faut beaucoup relativiser avec ça. Croiser quelqu'un d'handicapé, on peut lui parler normalement quoi. Il y a pas besoin de d'essayer de se mettre à son niveau ou autre. Non, on peut lui parler normalement quoi.
Ouais, ouais.
Et voilà, moi ma fille quand elle essaie de nous parler, c'est du vachniac, on comprend rien ce qu'elle nous dit quoi.
Ouais.
Et les gens ils sont là, ils la regardent. Mais vous pouvez lui dire, hein, j'ai rien compris de ce que tu m'as dit, c'est pas grave.
D'accord. Ouais.
C'est voilà, les gens n'osent pas, mais je comprends, je comprends. J'aurais très certainement réagi de la même manière avant.
Ouais. J'ai une anecdote là-dessus. Je me rappelle d'une personne qui était justement en fauteuil roulant, en fait. Donc c'est une autre personne qui me raconte cette histoire-là, qui du coup l'accompagnait. Et en fait, systématiquement, les gens lui parlaient à elle.
Ouais.
Qui était du coup valide sur ses deux jambes et pas à lui,
lui était
qui était
en fauteuil
roulant, qui était transparent. Et donc elle disait mais c'est
dingue,
il faut parler. Enfin,
c'est dingue.
Je fais pas la traduction. Enfin, il est là.
C'est dingue, mais le problème c'est que la réalité elle est là et qu'en face on a en effet peu de choses. Alors quand c'est quelqu'un qui a entre guillemets qu'un problème moteur, mais que psychiquement il est capable de tout faire, il arrivera très certainement quand même à trouver un travail ou autre, même si ça sera pénible et compliqué. Mais quelqu'un dans le cadre blanche. Aujourd'hui, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. À part des foyers d'accueil qui vont exister d'ici de là, mais pour ce qu'on en voit, on juge, en tout cas, nous, en tant que parents, que ce n'est pas des conditions acceptables pour laisser quelqu'un.
Voilà. Il faudrait quoi pour justement que ce soit bien
Je pense qu'il faudrait là. Il y a une grosse défaillance au niveau de l'État par rapport à ça, mais ça, c'est depuis malheureusement des décennies, c'est comme ça. Hein. L'État, il a été repris hein, quand même par plusieurs fois hein, par rapport à ça. Il a été repris plusieurs fois par le Conseil européen, justement pour sa non prise en charge en fait en réalité pour les personnes handicapées. Et c'est vrai que par rapport à ça, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Ouvrir des instituts vraiment avec des personnes qualifiées. Rémunérer, parce que le problème aujourd'hui c'est ça, c'est de trouver des personnes qui soient qualifiées, mais ça demande des moyens, et ça aujourd'hui c'est compliqué.
Ouais.
Au-delà de ça, faut une vraie, quelqu'un qui veut être éducateur, c'est une vraie ambition, c'est une vraie motivation, quand on voit combien ils sont payés, faut pas s'étonner aujourd'hui qu'on ait du mal à en trouver, et trouver des bons, voilà, c'est normal quoi. Donc là-dessus je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Maintenant, bon, je pense qu'il va pas falloir attendre que ça soit l'État qui le fasse, même si des choses sont faites, mais c'est pas suffisant. Après, par rapport à l'autisme, il y a plus de choses qui existent, beaucoup plus d'instituts qui se font par rapport à l'autisme.
C'est une maladie qui est plus connue aussi.
Ouais, en effet, il y en a de plus en plus aussi. Après, c'est aussi parce qu'on les détecte. Avant, on les détectait pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'endroits, d'instituts qui se font pour les personnes autistiques. Mais, enfin, autistes. Et pour les personnes plus comme ma fille, là pour le coup, il n'existe pratiquement rien, quoi.
Ouais.
Si ce n'est des foyers d'accueil, mais où elle va se retrouver demain avec des personnes qui vont avoir 50 ans, qui n'ont pas du tout les mêmes pathologies qu'elle, rien. Enfin, et c'est compliqué. Et il va y avoir un manque de personnel, donc on pourra rien lui faire travailler. Toutes les acquisitions qu'elle aura peut-être pu réussir à faire, elle les perdra. Et voilà, ça sera juste une solution de gardiennage. Mais c'est pas concevable. En tant que parent, c'est pas concevable. Donc nous, on va créer ça.
J'admire vraiment ton combat, enfin le combat que vous avez. Toi, ta femme et ta famille, finalement.
C'est, ouais, tout à fait.
À la fois un engagement et une forme d'abnégation, en fait, hein, dans cette aventure qui vous est tombée, effectivement, tu le disais, un peu dessus, c'est sûr.
Non, puis on s'est dit, on va conjuguer nos efforts et les compétences de tout le monde, divers et variés, pour en faire quelque chose. Et si l'association fonctionne, qu'on peut à terme recruter un éducateur spécialisé et qu'on peut faire intervenir Blanche dans l'association à temps plein, si tout ça fonctionne, On aura encore le projet d'aller plus loin après, et pourquoi pas créer un foyer justement nous d'accueil, oui, créer un foyer d'accueil spécialisé.
Ça n'a pas de limite.
On s'en donnera les moyens pour le faire. Aujourd'hui, techniquement, c'est compliqué. Là, les journées font que 24 heures et c'est compliqué.
Il faut y aller pas à pas, en fait, hein, marche par marche.
Mais ouais, mais c'est un projet qu'on a aussi en tête. Il y aura une solution professionnelle pour Blanche si l'association fonctionne. Mais si ma femme et moi, demain, on n'est plus là, qu'est-ce qui se passe quand même pour elle en dehors des heures de travail, quoi. Mmh. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi ce projet à terme, vraiment aussi de essayer, en tout cas, de pourquoi pas en plus créer une structure d'accueil comme ça, quoi. Mmh. Et qui soit vraiment une structure digne de ce nom, où là, on pourra accueillir aussi d'autres personnes, où les parents pourront les mettre en toute sérénité. Parce que voilà, ils seront accueillis avec bienveillance, on leur fera faire des activités, on les fera évoluer, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais ça se fait souvent et beaucoup malheureusement par la seule volonté et force des parents.
Bah oui, ouais, c'est ça. C'est dans les histoires effectivement qu'on remarque à chaque
fois.
Effectivement, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est les parents qui font face. Je me rappelle de cette histoire de jeune homme. Je me rappelle plus le handicap qu'il avait, mais un handicap moteur dans mon souvenir, où il avait un papa qui l'a emmené faire le Ironman.
Ouais. Oui, tout à fait. Oui.
Je me rappelle plus son nom.
Exact.
Je me rappelle par contre de l'histoire.
Exact.
Je trouvais que les mots étaient forts. Je me rappelle de son interview.
Cette histoire-là est folle aussi.
Ouais. Ouais, ouais.
Est folle. Et voilà, mais c'est des choses qui portent. Les bobos à la ferme dont on parlait tout à l'heure, c'est des parents qui sont aidants. Ils ont un enfant qui est aussi en situation de handicap, très lourd aussi, et ils ont tout arrêté professionnellement, et ils sont lancés, ils ont créé leur structure, un pari fou. Nous, on irait peut-être plus avec un peu plus de filet de sécurité, on va dire, ils y sont allés comme ça. Aujourd'hui, ils ont une structure où ils ont embauché plusieurs personnes, et voilà, et nous, pour nous, ça, c'est très moteur, quoi.
Ouais, ouais.
C'est très moteur, parce que... Là où l'État est défaillant, les parents derrière, il y en a quand même qui arrivent à faire des choses, quoi. Et ça, faut qu'on garde, il faut qu'on le fasse.
Ouais.
Et je pense qu'on fait partie de ces parents qui ont ce courage, qui ont cette volonté, et on a les compétences, je pense, pour le faire. Et si on n'a pas tout, et ben on ira les chercher. Mmh. Et voilà, on lâchera rien en tout cas. C'est un bon combat.
Ouais, c'est un super beau combat. Vraiment,
c'est
bravo.
C'est un bon combat.
Bravo pour cette ce combat. Je suis vraiment admiratif en fait. Hein. Ça me subjugue. Là, ça fait un petit peu de temps là qu'on dit 1h15, tu vois.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas emmené? Que t'aurais aimé évoquer?
Oh, je me suis beaucoup confié. Ouais. Pas vraiment, non.
C'est vrai qu'on a pas mal discuté. Il y a quand même une chose effectivement sur que je t'ai amené. Je t'en ai parlé juste avant là. J'aime bien terminer sur une citation.
Sur une citation. J'en ai une.
T'en as une. Voilà.
J'en ai une. Une citation de feu Monsieur Marc Monnier. Une citation que j'aime beaucoup qui dit: penser en riant, c'est la santé de l'esprit.
Ah ouais.
Et c'est une situation que j'aime bien garder en tête, voilà.
Toujours garder un peu le positif.
Voilà, toujours regarder le verre à moitié plein. Y a des choses à faire. En effet, c'est pas tous les jours facile. Des fois, c'est dur. Des fois, on a envie de baisser les bras. Et voilà. Alors, quand on est seul, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué. Moi, des fois, j'ai envie de baisser les bras. Il y a ma femme qui est là, qui peut prendre un peu le relais. Et des fois, on s'épaule, on s'était comme ça. Mais de manière générale, faut voir le positif.
Mm.
Faut voir le positif. En effet, la vie n'est pas toujours facile, mais elle apporte que des bonnes choses.
Mm.
Elle apporte que des bonnes choses. Donc,
c'est une belle leçon de vie que tu donnes pour tout le monde, je pense.
J'espère. Ouais. Nous, c'est ce qu'on s'applique en tout cas, et je pense que tout le monde aurait à y gagner, à réussir à faire un peu comme ça, je pense.
Ouais.
Après, je pense pas avoir parole d'évangile.
Ouais. C'est une super leçon de vie en tout cas. On va rappeler juste effectivement une dernière fois, une énième fois, on a cité au moins 3 ou 4 fois dans le podcast, mais c'est bien de le rappeler, il faut le marteler. Hein. Donc c'est les 15 et 16 juin,
15
c'est
et 16 juin,
à l'espace de Wailly.
Espace de Wailly, en effet.
Voilà, pour cette expo.
Sur tout le week-end, vous pouvez venir, il y a des animations photos, il y a des conférences photos le samedi matin, il y a surtout la vente aux enchères le vendredi après-midi. On offre aussi des lectures de portfolio aussi pour des gens qui aiment la photo, qui aimeraient peut-être montrer leur travail, ils ne savent peut-être pas trop quoi en penser. comment présenter un book, et ben on aura un expert qui sera là. Et on offre une dizaine de séances comme ça gracieusement à des personnes qui voudraient. Ils peuvent s'inscrire sur le site. On a un site internet, lesimagesdeblanche.org. Il y a toutes les infos du festival dessus.
On mettra, je remettrai effectivement là dans le podcast effectivement les liens vers le festival, à la fois le festival, mais les différentes choses dont on a parlé aussi là ce soir. Je te remercie vraiment infiniment.
Alors,
je vais remercier aussi le Kimbo. Je vais rappeler, est-ce que le Kimbo nous a accueillis un peu comme ça à la dernière minute. Mais on va remercier le Kimbo de nous avoir accueillis et je te remercie énormément.
C'est partagé. Merci à toi.
De cet échange, de ce partage que tu nous as donné sur à la fois ta vie et en même temps effectivement ce combat que tu mènes. Je trouve ça formidable.
Ouais.
Voilà. Donc un grand merci à toi.
Merci à toi.
Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'étais vraiment touché par l'histoire de Blanche, Clément et leur famille. C'est une véritable leçon de vie, de dévouement et d'amour que Clément nous a offerte aujourd'hui. Sa détermination est admirable et ce projet où il combine son rôle de papa et de proche aidant avec sa passion pour la photographie est tout simplement inspirant. Alors pour retrouver Clément, Blanche et leur famille, je vous invite à vous rendre au Festival de la photo amiennois qui se tiendra les 15 et 16 juin à l'espace de Wailly à Amiens. Que vous soyez passionné de photographie, curieux de découvrir de nouveaux talents ou simplement désireux de soutenir le travail de l'association, vous y découvrirez une pléthore d'artistes. Et peut-être même repartirez-vous avec une belle œuvre sous le bras. Si vous n'avez pas l'occasion de vous rendre au festival, vous pouvez aussi suivre le travail de l'association sur leur site internet, lesimagesdeblanche.org. Vous pouvez également laisser un petit message de soutien et d'encouragement sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je voudrais aussi remercier le Kimbo, situé dans la galerie des Jacobins à Amiens, qui nous a accueillis à la dernière minute avec beaucoup de gentillesse. Nous avons pu nous asseoir en terrasse dans cette magnifique cour pleine de charme, un lieu très chill qui mérite qu'on s'y installe. Alors pour terminer, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Peut-être nous croiserons-nous au Festival de la photo les 15 et 16 juin prochains. Et dans tous les cas, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle rencontre dans un nouveau lieu d'Amiens.